Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Passées de quelques secondes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec, bien évidemment, un nouvel invité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de l'accueillir devant le micro de Radion. Je l'avais croisé il y a quelques années lors d'un très beau salon qui a lieu en Bourgogne, le prestigieux Livres en Vigne. Et c'est Éric Nehoff que je reçois aujourd'hui. Éric Nehoff, bonjour.
Bonjour. Alors, étant donné le titre de votre émission, j'espère que vous allez dire que j'ai écrit un roman de gare.
Ce nouveau roman, paru au tout début du mois de janvier de cette année 2022, a pour titre « Rentrée littéraire », c'est chez Albin Michel. Alors je dois vous présenter un petit peu, je n'ai pas fait plus de recherches, moi je vous connaissais parce que, en tant que romancier, aussi par vos critiques dans Le Figaro, c'est toujours d'actualité.
Oui, oui, oui.
À la radio,
ils se
toujours
sont pas
un
débarrassés
peu.
De moi encore.
À la radio, un petit peu, on vous entend.
Au masque et la plume, oui.
Au masque et la plume. Alors, vous avez obtenu un certain nombre de prix littéraires et non négligeables. Hein, le prix des deux magots en 96 pour Barba Papa, le prix Interallié en 97 pour La Petite Française. Le grand prix du roman de l'Académie française il y a un peu plus de 20 ans, c'était en 2001.
Ah, déjà.
C'était pour un bien fou. Vous 2001, avez oublié un petit peu
c'est... Septembre 2001, il y avait un autre événement à ce moment-là.
Vous avez un peu oublié toutes ces récompenses? On les oublie?
Non, pas du tout. Mais
le temps passe.
Je ne les oublie pas parce que je sais que je ne peux plus les avoir.
Ah, sait-on ce qui vous attend cette année?
Ah, le Nobel. Ah.
Alors, Rentrée littéraire, c'est donc un roman qui n'est pas très épais. C'est un roman assez court.
Pour moi, si. J'ai failli le publier en deux volumes.
Ah oui?
Ah ben, il est plutôt plus gros.
Alors, vous avez élagué, alors?
Ben, je coupe toujours beaucoup parce qu'au départ, je me dis toujours que je vais écrire un roman qui va faire 500 pages, comme ceux de John Irving, mettons. Et puis, résultat, j'arrive à 200. Mais bon, moi, ça doit être mon rythme, ma distance, bien sûr.
Alors, ce nouveau roman, Rentrée littéraire, met en scène un couple d'éditeurs,
oui.
Femmes et hommes. Ils ont créé leur maison d'édition, les éditions Les Épées, maison d'édition parisienne, qui a tout de même une belle notoriété.
Ouais.
Quand bien même elle rencontre, dans ces années actuelles, des difficultés financières, la banque appelle assez régulièrement. Et puis, Pierre, donc votre héros, et son épouse Claire survivent dans une époque, dans un Paris qu'ils ne supportent plus, en tout cas une époque et une ville lumière qui ne ressemble plus beaucoup à ce qu'ils ont connu dans les années, fin des années 70, années 80 et début des années 90.
Oui, c'est un peu ça. Oui. Ils ont tellement aimé Paris, la vie parisienne, l'édition de cette époque-là, qu'ils ont le sentiment d'être un peu des dinosaures, parce qu'ils voient tout ça changer. Paris est quand même devenue une ville triste, laide, antipathique, pour tout un tas de raisons. Et pour eux, c'était la cour de récréation, la ville lumière, la ville magique. Et ils sortent beaucoup, ils continuent, parce que le métier veut ça aussi. L'édition, c'est quand même la profession où l'essentiel du travail se passe avec une serviette autour du cou dans les restaurants.
J'ai largement compris cela en lisant votre roman Rentrée littéraire, c'est que finalement on passe plus de temps dans les restaurants parisiens que dans les locaux de la maison d'édition à négocier des contrats. Ou alors les contrats se négocient entre le fromage et le dessert.
Tout ça est en train de changer. C'est que maintenant les auteurs ont des agents, c'est que les avaloirs sont quand même l'enjeu principal. Les auteurs menacent de quitter l'éditeur qui les a découverts. Il y a une ambiance qui est quand même plus du tout la même qui était celle Bon Enfant des années 80-90, que l'édition était quand même un endroit où les gens allaient pour ne pas travailler vraiment, pour continuer à vivre une vie d'étudiant attardé, à lire des livres, à en publier. Et il y avait cette espèce de liberté, de légèreté, d'art de vivre à la française, peut-être tout bonnement, qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui. Et c'est sans doute dû à Internet, qui permet aux éditeurs d'avoir les chiffres de tous les auteurs publiés, donc de refuser les livres qui ne sont pas vendus pour les prochains. Paradoxalement, aujourd'hui, l'aventure a disparu à cause d'Internet. C'est qu'à une époque, on publiait un auteur jusqu'à sa mort. Et à côté, un auteur qu'on aimait, à côté, il y avait les best-sellers qui permettaient de financer ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que ne comptent plus que les chiffres. Que les maisons d'édition sont dirigées par des gens qui déboulent de Subdeco ou d'HEC dans le meilleur des cas, et qui sont des diplômés dont on n'a pas voulu dans les vraies boîtes, dans les vraies industries sérieuses. Donc, on récolte dans l'édition, j'ai l'impression, des gens qui ne connaissent ni les lettres, ni les chiffres, puisque sinon, ils travailleraient dans l'industrie pharmaceutique. Et ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète et ça me rassure aussi de voir que les grands groupes, les milliardaires, s'intéressent à des petites maisons d'édition, veulent les racheter. Je me demande pourquoi, parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait superflu, qui ne rapporte pas énormément d'argent. Quand on voit l'agitation qui saisit les éditeurs en septembre-octobre pour avoir le Goncourt, mais le budget d'un Goncourt, ça ferait rire un patron d'une PME, tellement c'est dérisoire.
Alors il y a d'ailleurs un PDG là, d'un groupe qui s'appelle Cartago, qui est spécialisé donc dans le luxe, les grands crus et la presse, et qui effectivement est prêt à racheter la maison d'édition qu'ont créée Claire et Pierre. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que vous le présentez, vous avez un art du portrait, une façon d'envoyer des fléchettes très moqueuses. C'est très drôle, c'est croustillant.
Des fléchettes très élogieuses sur certains personnages aussi.
Parfois.
Ah, oui,
alors,
parfois.
Et puis il y a tout de même, j'imagine, une complicité que vous demandez avec vos lectrices et lecteurs, parce qu'il y a des gens qui sont vraisemblablement identifiables. Non. Et par exemple, moi, je pense très peu capable d'identifier certaines personnes que vous ne nommez pas. Il y a des gens qui apparaissent. Evelyne Philippe, par exemple, pense avoir reconnu Jérôme Attal.
Ah oui.
C'est le passage où...
Exact, oui. Vaguement, il y a un salon du livre où il y a un
parolier de Johnny Hallyday qui se met au piano. Or, nous connaissons Jérôme Attal. Voilà, ouais. Evelyne Philippe m'a dit, c'est sûrement Jérôme Attal. Mais il y en a d'autres. Cet avocat qui est censé devenir ministre, j'ai pensé que c'était Éric Dupond-Moretti. Je me suis trompé.
Non, non, il y a deux lignes aussi dans le train qui va à la foire de Brive avec une romancière tout en noir qui boit du champagne. Là, c'était un petit clin d'œil à Amélie Nothomb. Mais sinon, ça n'est pas du tout un roman raclé.
Manquer les fruits pourris.
Ah ben non, mais ça, j'ai fait exprès de ne pas le faire.
C'était trop évident.
Oui. Et non, le seul portrait, le personnage identifiable pour ceux qui le connaissaient, c'est un déjeuner dans un restaurant qui n'existe plus avec un académicien qui a les moustaches du Major Thompson, référence qui remonte au temps du muet. Et ça, c'est un petit salut à Michel Mort que j'aimais beaucoup. Mais sinon, ça n'est pas, j'ai pas voulu faire un roman à clé du tout parce que ça aurait été trop facile. Je voulais que ce soit un pur roman, une fiction, pour rendre hommage à ce milieu que j'aime beaucoup finalement, et c'est avec ce sentiment de perte, hein, parce que un roman c'est toujours quelque chose à l'imparfait. Ça se tourne vers le passé et c'est pour ça que c'est peut-être un roman nostalgique aussi.
Et oui, d'ailleurs vous l'écrivez sur la quatrième de couverture. Oui. Rentrée littéraire est un roman nostalgique, mais c'est aussi une histoire d'amour. Il n'y a pas de mal à ça, on en reparle peut-être. Avec vous, bien sûr, juste après la première pause musicale. Je rappelle que c'est Éric Neuhoff, prie de m'excuser. Éric Neuhoff.
C'est wagon ivre, là.
Éric Neuhoff qui nous accompagne jusqu'à midi à bord de Wagon Livre.
Faudrait que je passe au pressing, que je rappelle ma grand-mère, que j'étende la machine et qu'on aille boire un verre. Ça fait longtemps, c'est vrai, ça fait longtemps. Faudrait que je reprenne ce film que j'avais commencé 10 fois déjà. On est toujours pressé, jamais le temps de s'ennuyer, vraiment de prendre le temps. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, les promesses non tenues. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, vivre le temps venu. Tam, 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 tam. donner, ne pas oublier que j'ai peur dès qu'on me parle d'amour. Faudrait, comme promis, que je me remette au vélo. Mais avant, faut que j'achète un vélo. Rappeler maman, organiser nos vacances de printemps. Fini la flemme, fini les à plus tard. Fini les on verra, les promesses non tenues. Fini la flemme, fini les à plus tard. Fini les on verra, vivre le temps venu. Tam, 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 tam. Annuler rendez-vous, prendre un abonnement à la salle, acheter des clopes,
anniversaire Clément, réparer ordi, vitamine C, écrire une chanson sur les listes.
Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, les promesses non tenues.
Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, vivre le temps venu.
Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, les promesses non tenues. Fini la flemme.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Rentrée littéraire, c'est le titre du tout dernier roman de notre invité sur Radion, Eric Neuhoff. Alors, rentrée littéraire, juste avant la pause musicale, vous disiez que c'était un roman nostalgique. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans les locaux de la maison d'édition de votre beau couple, sexagénaire.
Ah oui, à force. Hein,
c'est que Pierre, d'ailleurs, vous dites de lui, c'est un sexagénaire grassouillé. Bon, bien sûr, il passe beaucoup de temps au restaurant.
Ouais.
En revanche, sa femme, Claire, vous dites d'elle qu'elle est inhumainement magnifique.
Belle.
Elle est inhumainement belle.
Une beauté inhumaine, voilà, ça me revient maintenant.
Qu'est-ce donc une beauté inhumaine?
Ah bah, c'est,
expliquez-vous.
C'est une beauté qu'on ne trouve que dans les livres.
Alors, j'étais très surpris que vous nous fassiez visiter les locaux de la maison d'édition de Claire et Pierre, les éditions Les Épées. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un portrait d'un écrivain qu'à mon avis, plus grand monde ne connaît. Moi-même, je ne l'ai pas lu, mais je sais la mauvaise réputation qui entoure cet homme, c'est Maurice Sachs. C'est assez surprenant quand même.
Oui, mais c'était un très bon écrivain, une crapule absolue.
Oui.
Mais c'était pour donner un peu le ton de cette maison d'édition qui est démodée, décalée et qui ne se trouve plus tellement à sa place dans l'époque d'aujourd'hui.
Est-elle politiquement incorrecte, cette maison d'édition ?
Oui, sans doute, oui. Le Pierre en question regrette les livres de Geneviève Dorman à un moment donné et je voulais que ce soit un éditeur vraiment à l'ancienne qui ne lit pas les manuscrits envoyés par mail, qui refuse l'autofiction, qui n'aime pas la bande dessinée et qui continue son petit bonhomme de chemin, même si ça devient chaotique avec les enjeux financiers qui règnent aujourd'hui.
D'ailleurs, à un moment, je crois que Pierre a des noms. Alors, je vais retrouver très précisément la page pour être précis et clair pour celles et ceux qui nous écoutent. Effectivement, on revient à cet académicien, et décidément le wagon est de plus en plus vif, je m'inquiète. L'académicien ressemblait au major Thompson avec sa moustache en guidon de vélo. Qui savait encore qui était le héros de Pierre Daninos? Daninos, Paul Guth, Jean-Louis Curtis, tous ces noms qui ne disaient plus rien à personne.
Oui, le fait est, parce que c'est presque comme les poupées russes, parce que déjà, Michel Mort, peu de gens s'en souviennent, alors que là, la scène en question peut être datée aux années 90. Mais au cœur de ce petit moment, le héros repense aux auteurs qui étaient célèbres 20 ans avant. Et c'est vrai que la postérité, c'est un peu comme dans Barry Lyndon, vous vous souvenez, les séquences avec les soldats en uniforme rouge qui avancent sur le champ de bataille et qui tombent un par un. On voit ceux qui restent debout. Eh ben, il n'y a pas grand monde. C'est un peu comme dans une rentrée littéraire. Si on aligne 600 livres, Et puis au bout du compte, il y en a une dizaine qui vont tirer leur épingle du chapeau.
Justement, Eric Neuhoff, c'est un peu dramatique et triste finalement, parce qu'il y a des perles, il y a des pépites. Vous-même qui lisez beaucoup, vous ne pouvez pas lire toute la production matérielle d'une rentrée littéraire. Et on se dit qu'il y a peut-être de formidables écrivains qui sont passés à côté d'une émission...
Oui, mais qui ont
d'une
été publiés.
Mais qui ont été publiés.
Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile. L'auteur maudit, ça, je n'y crois plus beaucoup. Les éditeurs sont tellement en quête de talent que quelqu'un qui a un petit quelque chose est forcé de trouver un éditeur.
Mais publié sans, j'allais dire, toute la machinerie de promotion derrière, est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul quand on est écrivain et qu'il n'y a pas de retour dans les médias, parce qu'aujourd'hui, tout le monde court un peu sur les plateaux de n'importe quelle émission. Ouais. Bon, les émissions littéraires, à la télévision, il n'y a plus grand-chose.
Non. Vous voyez, parce qu'à l'époque, il y avait apostrophe. Moi, je me souviens quand j'ai su que mon premier roman allait être publié, mes amis ne m'ont pas demandé de quoi ça parlait du tout. C'était « Ah ben alors, tu vas passer chez Pivot ». C'était l'évidence. Sinon, on n'existait pas. Et le fait est que j'y suis passé, mais comme j'étais très, très mauvais... quand j'étais invité, je vendais encore moins de livres que quand je n'y allais pas. Mais l'émission, quand on revoit des épisodes, était quand même fabuleuse. Pivot avait un sens là, de la sympathie. C'était pas lui la vedette, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui à la télévision. C'était pas « quelle chance vous avez de me rencontrer », mais il savait faire parler les gens qui étaient timides, calmer ceux qui étaient trop bavards. Il y avait vraiment quelque chose qui rendait le livre accessible. Les libraires et les grands magasins avaient leur table avec les piles des auteurs le lendemain, le samedi. C'était quelque chose d'énorme. Les gens ne sortaient pas le vendredi pour regarder ça. Et non, mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de livres pour des raisons X ou Y, entre autres ce système des offices. Enfin, on ne va pas être trop technique, mais il ne faut pas oublier que c'est de la cavalerie permanente et que les libraires servent de banquiers aux éditeurs. C'est-à-dire que les libraires achètent les livres et les renvois se font rembourser. Donc tout ça, cette pléthore de publications, en gros, ça sert à payer le salaire de la standardiste de la maison d'édition. Et un auteur méconnu passera sans doute à travers les mailles, enfin sera publié, mais n'aura pas l'exposition médiatique dont vous parliez. Encore que, un des gros changements, je crois, aujourd'hui, c'est qu'il est plus facile de publier un premier roman qu'un troisième ou un quatrième, à mon avis.
Oui, c'est très difficile de réitérer, par exemple, le succès d'un premier roman.
Oui, ou même l'insuccès. C'est que, comme maintenant les éditeurs ont tous les chiffres de vente des auteurs, l'auteur, avec des tirages moyens, au bout d'un moment, son éditeur le laissera tomber, au lieu de poursuivre et d'attendre que...
Mais je me rappelle Michel Host, qui a été un prix Goncourt, a eu énormément de mal, après son premier roman, à trouver des éditeurs.
Ouais. Et mais surtout, au bout d'un moment...
Et il n'est sans doute pas le seul.
Son éditeur ne le publiait même plus, Grasset. Non, c'était cruel. Non, parce que le Goncourt, il faut quand même être très costaud pour supporter d'avoir ce prix. C'est qu'il y a très peu de gens qu'il a eu, dont on a oublié que c'était le Goncourt de telle ou telle année. Il y a eu Félicien Marceau, il y a eu peut-être Orsena aussi, mais en gros, Modiano aussi. Mais en gros, tous les autres, on se dit, tiens, ce gars-là, c'est vrai, il a eu le Goncourt, mais ça a été dramatique, ça. Ils s'en remettent pas, parce que vous êtes un vrai boulet pour l'éditeur. C'est que l'éditeur est sûr que vous ne vendrez jamais autant de livres que l'année du Goncourt. Donc, c'est quand même embarrassant pour lui.
Alors, parlons du Goncourt, justement. Ouais. Votre éditeur sexagénaire des éditions Les Épées...
Ah, vous dites ça comme si c'était dégoûtant. Sexagénaire.
Non, mais...
Moi, je trouve qu'éditeur est plus dégoûtant que sexagénaire.
Je vous cite. Pierre avait été idiot de déclarer au Point, l'hebdomadaire Le Point, je méprise le Goncourt et tutti quanti.
Ouais.
Cet homme est fou.
Oui, mais c'est assez marrant.
Irraisonnable.
Oui, mais à l'âge qu'il a, je crois qu'il n'a plus tellement à faire attention. Et c'était un peu un clin d'œil à Jacques Laurent, qui, avant d'avoir le Goncourt pour les bêtises dans les années 70, avait déclaré « je méprise les prix littéraires ». Donc c'est peut-être un moyen de les avoir.
Mais on sait qu'il y a des écrivains qui ont refusé des prix.
Très, très peu. Julien Gracq.
Oui. Ouais. La littérature à l'estomac.
Oui. Non, il avait eu le prix pour je ne sais plus quel... un roman, je ne sais plus lequel.
Non, je ne peux pas vous aider, Eric Noor, j'avoue.
Celui là aussi. Que j'admire le plus, c'est Sartre qui avait refusé le Nobel.
Et pourquoi l'admirez-vous dans ce refus du Nobel?
Parce qu'il a refusé un chèque d'une somme faramineuse. Et ça, je connais peu d'écrivains qui oseraient faire ça. Parce qu'on peut refuser un prix, par exemple le Goncourt, où le chèque doit être à l'équivalent de 10 euros, mais les ventes, on ne les refuse pas. C'est curieux. Mais moi, je suis tout à fait pour que les prix littéraires continuent, ça ajoute...
Même si on doute un peu de l'honnêteté des membres du jury.
Oui, mais de moins en
qui
moins.
Qui sont un peu au pied des éditeurs.
Oh. Mais non. Beaucoup moins qu'avant, hélas. C'est que la corruption est en train de s'évanouir. La société est tellement judiciarisée maintenant que les avaloirs non honorés, les préfaces surpayées, maintenant ce serait considéré comme des salaires fictifs. Moi, j'aimerais bien être corrompu, mais personne ne veut m'acheter aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de moralisation qui est tout à fait dommageable, parce que les prix littéraires et la vie littéraire, c'est fait pour être un peu comme ça, tangent, qu'il y ait des compromis, des erreurs, des combines, du copinage. Ça, c'est très très bien. Moi, quand j'entends les gens dire « il faut qu'il y ait la parité, ceci, cela, des règles morales », mais non, on n'est pas à la sécurité sociale, ça n'appartient pas à l'État, les prix littéraires. Donc, ce sont des bandes de copains ou de gens qui s'entendent plus ou moins bien, qui font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que comme c'est à la majorité absolue, ça ne donne pas forcément le résultat le plus convaincant, toujours.
Et les membres du jury, des jurys littéraires se retrouvent souvent au restaurant.
On vote au restaurant, on lit la bouche pleine.
Quelle gourmandise, quelle gourmandise.
Mais ça, je trouve ça très bien.
Mais selon vous, Eric Neuhoff, aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, quel est le prix littéraire le plus prestigieux en France? C'est le Goncourt?
C'est le Goncourt, toujours.
Et les gens. Et ça, c'est très français.
Oui, ça, je crois que c'est le seul pays où ça existe encore. Hein. Aux États-Unis, ça n'a pas le droit de citer. Les prix, c'est zéro. En Angleterre, pareil. L'équivalent du Goncourt, là, le prix Strega en Italie, ça n'a aucun résultat. Mais cela dit, les chiffres de vente baissent énormément parce que les gens lisent moins et puis peut-être font moins confiance. Et en plus, rappelez-vous, à une époque, les résultats du Goncourt étaient annoncés le lundi à 13h en ouverture du journal télévisé. On voyait Nourricier avec sa barbe avancer au milieu des flashs, s'approcher des micros et puis donner le nom du gagnant. Aujourd'hui, c'est une brève à 13h20 sans une seule image. Et ça veut tout dire.
Ça aussi, très récemment, je refeuilletais un livre sur chez Talendier, sur les présidents de la République française et leur rapport au livre. Et je pense notamment aux photos officielles du général de Gaulle devant la bibliothèque, François Mitterrand. Bon, Emmanuel Macron a vraisemblablement, lui, changé le style. Il est devant une fenêtre, mais il y a trois livres, je crois, derrière lui. Il doit y avoir un Stendhal, un livre
Philippe,
de Gide.
Un Philippe Besson, peut-être.
Vous êtes moqueur.
C'est son Thury Ferrer, son portraitiste, son Saint-Simon.
Oui. Mais il a été récompensé, il a été nommé consul aux États-Unis.
Je crois que ça n'a pas pu se faire, heureusement, parce que c'était quand même scandaleux que Philippe Besson prenne la succession tardive de Romain Gary à Los Angeles. Il y a des limites quand même.
Mais par exemple, il y a eu des ministres écrivains. Je pense à Malraux, qui en plus venait de la gauche et que le général de Gaulle choisit comme ministre de la Culture.
C'était plus un écrivain devenu ministre.
Oui.
Des ministres devenus écrivains, entre guillemets, c'est par exemple Villepin.
Et paraît-il, un bon poète. Dominique de Villepin.
Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Postérité s'en souviendra.
Jean-Christophe Ruffin, par exemple, a été nommé...
Oui, mais n'importe qui peut être nommé ambassadeur.
C'est vrai, ça vous plairait?
Non.
Pourquoi donc?
Parce qu'il faut être diplomate, et moi, c'est pas mon genre.
Ah oui.
Non, puis il faut le vouloir aussi.
Mais alors, vous écrivez, alors justement, puisqu'on parle des hommes politiques et de leur rapport au livre, il y a quelques passages qui sont... Alors, j'aime bien, pas politiquement correct, il y a une audace... Alors, elle est sans doute un peu la vôtre aussi, mais vous la mettez dans les positions et surtout les propos de certains cocktails littéraires ou soirées littéraires chez Claire et Pierre ou ailleurs. Vous dites que finalement, on n'est pas prêt de voir un chef de gouvernement dans une librairie. Et ouais, vous dites que maintenant un ministre montre sa bite sur Instagram, ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs.
Bah oui, mais c'est quand même la réalité. C'est pas moi qui l'ai inventé, bah, hein, j'aurais pas osé.
On n'était pas obligé de le rappeler, c'était ouais, fâcheux.
Bah quoi.
Non, c'était drôle.
Peut-être qu'il fera pire, qu'il va écrire un livre.
Mais il y a quand même quelque chose de terriblement affligeant. Ouais. Alors, ça fait un peu vieux schnock, mais moi qui ai un peu plus de 50 ans...
Ne vous vantez pas, le vieux schnock, c'est moi. Non, mais je voulais que ce soit un livre drôle aussi.
Et c'est drôle. C'est drôle. Ouais. Ce qui est très beau aussi, si Paris change, si le monde de l'édition change, ce qui reste immuable, c'est l'amour entre Claire et Pierre.
Ça
ne bouge pas.
Ils sont mérovingiens, ils le restent contre vents et marées.
Alors que tout le monde divorce autour d'eux.
Oui, c'est pour ça que c'est une vraie fiction, parce que c'est tellement improbable, un couple qui reste ensemble pendant des décennies, que je trouvais que c'était quelque chose de très romanesque à traiter, ça.
Mais... Ouais. La maison d'édition ne fonctionne pas aussi bien que leur couple, malheureusement.
Non. Mais ils continuent un peu à la porter à bout de bras. Et puis, il y a une certaine lassitude aussi de voir que tous les chiffres comptent, que les contrôles de l'URSSAF, tout ça, ça leur casse un peu les pieds. On devine bien qu'au départ, c'est clair, l'épouse qui avait dû aider à financer la maison en question. Mais ça change tellement maintenant. Les agents, le poids de l'économie dans ce milieu-là, que ça leur casse un petit peu les pieds. Ils ont peut-être envie d'arrêter, à regret d'ailleurs, de faire autre chose et puis d'être ensemble, de continuer à être ensemble.
En tout cas, on peut leur souhaiter de trouver un acheteur. Bon, il y en a un qui s'est présenté.
C'est un gros suspense.
Ouais. J'aime beaucoup. D'ailleurs, vous dites ce PDG très très riche, qui a des propriétés en sol, etc., qui a réussi sa vie.
Mais là, ça n'est pas un personnage que...
Là, c'est un fiction.
Il y en a trop.
Mais il a une grosse montre de gynécologue pied noir au poignet. Ouais. Moi, ça me fait rire. Ça pourrait peut-être heurter d'autres personnes.
Je sais pas.
Les gynécologues.
Ouais.
Les pieds noirs.
Ou les marchands de montres.
C'est Eric Neuhoff qui nous accompagne dans Wagon Livre en cette fin de matinée sur Radio. Bon, c'est la magie des ondes, puisque l'entretien a été enregistré le 15 février dernier, alors qu'Eric Neuhoff était invité à Dijon au Club des écrivains de Bourgogne. Je rappelle le titre de son dernier roman chez Albin Michel, Rentrée littéraire. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Un garçon comme ça dit qu'une fille comme moi, au style élégant, mais qui marche pas droit, les épaules en dedans, le geste maladroit, ça s'appelle comment? Une godiche, ça s'appelle faut m'aimer sacrément. C'est un tout ou c'est pas une fille simple qui l'est pas. Ça s'appelle comment? Une godiche, ça s'appelle. Même loin lui de moi, je pleure plutôt de joie de savoir qu'il est là et qu'il m'appelle comme ça. Sa godiche, il m'appelle. Ça désagréments.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Éric Nehoff qui nous accompagne avec son nouveau roman Rentrée littéraire chez Albin Michel. Alors Éric Nehoff, je me permets de vous offrir un trimestriel, c'est une revue intitulée Pays de Bourgogne qui existe depuis 1953, voyez-vous.
C'est alors, je n'étais pas né.
Ah oui.
Il y a très peu d'endroits où je peux encore dire ça, et à trois ans près.
La raison pour laquelle, alors, non seulement j'en informe nos auditrices et auditeurs, mais ça va vous intéresser puisque votre dernier roman parle du monde de l'édition, mais c'est très parisien. Il y a le portrait de quelqu'un que vous allez rencontrer d'ailleurs au Club des écrivains de Bourgogne, c'est Gérard Gauthier qui a créé une maison d'édition importante en Bourgogne qui malheureusement a mis la clé sous la porte, qui s'appelait Les éditions de l'Armançon. Et il y a 8 pages, un article de Claude Chapuis consacré à Gérard Gauthier qui a été une grande... et qui est toujours en vie, hein, Gérard. Ouais. Il a arrêté la maison d'édition, mais ça a été une grosse perte pour la Bourgogne. Bah, voilà, le dernier numéro de Pays de Bourgogne. Revenons à...
Et est-ce que 53 était un bon millésime pour le vin?
Mais je ne sais pas. Vous interrogerez Claude Chapuis. L'auteur de l'article, qui est un grand connaisseur du vin, voilà, puisque lui-même est viticulteur à Alox-Corton, il pourra peut-être vous éclairer, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous parlez de vin, je pense à Rabelais, où dans l'œuvre rabelaisienne, l'invitation à boire est toujours une invitation à lire aussi, voyez-vous.
Vaut mieux lire avant de boire. Hein.
Oui. Il y a un passage, alors je reviens à un personnage, enfin... Il serait peut-être temps d'ailleurs d'en parler. Je ne sais pas si c'est le Poulain des éditions Les Épées. C'est le romancier ami historique de Claire et Pierre.
Et fidèle à la maison.
Voilà, Mathieu.
Ouais, Mathieu, qui a leur âge aussi.
Et c'est ça.
Qui est le gars qui a publié beaucoup de livres, n'a pas eu de grand prix, et puis qui continue, qui se dit, tiens, si j'avais le concours, ce serait pas mal. Mais à qui la carte de visite de romancier permet de draguer des filles dans les salons du livre, dans les cocktails.
Il est dragueur, mais un peu seul.
Oui, comme tous les dragueurs, il se retrouve seul. Hein, mais peut-être que ça va s'arranger aussi.
Mais vous lui trouvez une qualité en écrivant. Mathieu ne s'était jamais marié, c'était une des rares erreurs qu'il n'avait pas commises dans sa vie.
C'est ce qu'il pense, lui. Ouais.
Mais sa raison de vivre, c'est les livres.
Ouais, parce que quand même, à la base, ces gens-là, malgré leurs défauts, leurs ridicules, ce sont des gens qui aiment la lecture, qui sont lancés là-dedans parce qu'ils avaient des livres entre les mains tout le temps quand ils étaient adolescents. Et ça ne s'oublie pas, je pense. C'est le point commun, et j'ai beau en vouloir à certains, à la base, il y a quand même ce petit volume de papier avec des caractères d'imprimerie qui leur sert à la fois de guide Michelin, de passeport et puis de correspondance amoureuse.
Vous écrivez comme raison de vivre, les livres lui suffisaient, les siens et ceux des autres. Y avait-il quelque chose de mieux? Sinon, l'alcool était fait pour raccourcir les soirées.
Vous voyez, il peut lire et ensuite boire un peu.
Alors, Mathieu, le romancier sexagénaire, ami de Claire et Pierre, donc les fondateurs de cette maison d'édition Les Épées. D'ailleurs, les Épées, moi, je pensais que c'était un petit clin d'œil amusé peut-être à l'épée de l'académicien.
Ah non, c'est...
Non, pourquoi Les Épées?
C'est le titre d'un roman de Roger Limier.
Voilà,
c'est ça là, le clin d'œil.
Donc vous êtes tout de même nostalgique de ces romanciers un peu... Pas politiquement correct, à une certaine époque, c'est ça, en fait.
Oui, puis qui avait du style, qui s'amusait, qui avait tout un art de vivre. Les Hussards, qui roulaient en Aston Martin, qui se tuaient en Aston Martin, même. Et ça fait partie de la légende, ça. C'est comme Sagan ou des gens comme ça. C'est 18 ans, Bonjour Tristesse, succès phénoménal, les Jaguars, les boîtes de nuit, les casinos, les amis, la générosité, la frivolité, la légèreté. Et puis cette liberté d'esprit, qui est quand même ce qui nous manque énormément aujourd'hui, où le sérieux est en train de s'infiltrer absolument partout, et même dans l'édition, qui devrait être une forteresse pour le farniente et puis les bons mots, et cette civilisation à la française qu'on est en train de nous bousiller.
Une liberté un petit peu plus surveillée même dans les livres?
Je pense, oui, que les éditeurs font plus attention à ce qu'ils publient. On n'en est pas au stade des Américains où il y a des sensitive readers qui regardent ce qui pourrait offenser telle ou telle catégorie. Mais en plus, c'est pour ça que je voulais écrire un roman là-dessus, pas faire une thèse ou un pamphlet ou quelque chose à clé. C'est que le roman, pour moi, c'est le substrat, comme on dit, dans le parfum de la littérature. Et si on veut défendre cette idée-là, je crois qu'on est obligé de se lancer dans un roman pour être là. C'est comme une bouée au milieu d'un naufrage.
Je reviens à Mathieu, donc le romancier qui ne relit pas ses romans, qui ne les corrige pas en cas de réédition. Ouais. Et vous, quand on réédite vos romans, corrigez, vous ne les relisez pas?
Non.
Ça ne vous intéresse pas?
Non, parce que j'ai peur soit d'être déçu en disant « c'était pas terrible », soit de trouver ça beaucoup trop bien par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et puis je ne les corrige surtout pas parce que je n'aime pas cette idée des gens comme Bernard Franck ou même Michel Léon, que j'aimais beaucoup quand on a réédité certains de leurs romans 30 ans après. On n'est pas du tout le même 30 ans plus tard. Donc, ce qui a l'air choquant, il faut le laisser parce que c'était l'écrivain qu'on était à cette époque-là. Et ça date, mais aussi ça fait partie du charme de la chose.
Et je me fais souvent cette réflexion aussi. Il y a beaucoup de romans, de grands romans français que j'ai lus adolescents. Et j'en ai sans doute garder peut-être des très bons souvenirs. Il y a des gens peut-être que j'ai pas compris ou mal lu parce que je les ai lus trop jeunes. Et puis quand on anime une émission littéraire, on n'a pas toujours le temps, malheureusement, de relire ces classiques, et c'est bien regrettable.
Je vais vous dire, il y a même des émissions littéraires où les gens n'ont pas le temps de lire le livre de l'invité.
Oui.
Et ça n'est pas votre cas, hélas.
Justement, à un moment, le romancier Mathieu passe à la télévision, il passe sur un plateau. Alors, je ne sais pas qui est cet animateur qui a des tatouages, c'est pure fiction.
Il n'existe pas. Vous connaissez un animateur qui a des tatouages?
À moins que Bunel cache bien ses tatouages.
Ah, je ne sais pas. Ouais. Non, je ne crois pas.
Mathieu, lui aussi, le lendemain, ça tombe un peu dans le vide. Personne ne lui parle vraiment de sa prestation télévisuelle. Alors, a-t-il été mauvais ou n'intéresse-t-il personne?
Bah oui,
c'est un peu triste.
Non, parce qu'il ne voulait pas y aller au départ. Alors donc, il est allé en traînant les pieds et puis il est reparti avec la même démarche. Là,
mais il est fidèle à lui-même parce qu'au cours de cette émission littéraire télévisée, il a une voisine également, écrivain, qui joue le jeu à fond. Elle y croit à fond.
Ah oui, il y a beaucoup d'auteurs.
Là, c'est du spectacle parce qu'il y a des écrivains qui se mettent en spectacle. Et alors cette jeune femme, l'animateur, lui dit « Dans quel endroit vous sentez-vous à l'aise ?» Et elle répond « Dans une bibliothèque ». Et lui dit « Moi j'aurais répondu dans un restaurant ». C'est très drôle.
Je ne sais pas, non, mais c'est vrai que c'est plus amusant d'être au restaurant que dans une bibliothèque. Mais ça aussi, ça fait partie de cette gravité qui nous tombe dessus. Pourquoi se prendre tellement au sérieux alors qu'on fait un métier qui est quand même un loisir pour les gens normaux qui travaillent? Nous, on a cette chance d'être payés pour lire des livres, pour en écrire, et on devrait quand même remercier le ciel ou je ne sais qui de cette situation. Au lieu de dire « je souffre, je vais dans les bibliothèques », non, on est là, c'est vraiment pour faire circuler le sang, tout ça.
Ça va peut-être vous faire plaisir, parce que en vous offrant ce pays de Bourgogne, où il y a ce portrait de Gérard Gautier, qui a travaillé dans des maisons d'édition parisiennes avant que de créer ces fameuses éditions de l'Armançon. Ouais. Par courriel, il y a quelques jours, Gérard Gautier, je crois qu'il travaillait chez De Noël, m'a dit « Éric Neuhoff était le journaliste préféré de toutes les attachées de presse de cette maison d'édition ».
Ah ben, elles étaient très sympathiques, oui.
Vous vous en rappelez.
Oui. Mais je ne savais pas qu'elles étaient aussi attachées à moi, mais je vois très bien de qui il s'agit. Elles étaient sympathiques comme tout. Et la maison était encore quelque chose de bien, de foutraque, de bon vivant. Avec ses attachés de presse, on allait au bistrot de Paris, à côté des bureaux de la maison. Tout ça faisait partie d'un art de vivre. C'était quand même très, très plaisant. C'était le rêve, quoi, d'être là-dedans, les cocktails, lire des livres.
Et aujourd'hui,
et recevoir des livres gratuitement. Je me souviens quand j'ai démarré, mais J'ouvrais les paquets, mais comme si c'était Noël tous les matins. C'est...
Alors, il y avait profusion. Ce qui devenait un petit peu, parfois un peu inquiétant quand on voit les piles de livres autour de soi en se disant, j'aurais peut-être pas le temps de les lire.
Ah bah non,
et c'est souvent le cas.
Oui, mais on les met de côté et puis on
finit. On les revend.
On peut les revendre, mais vous
on
savez,
sait qu'il y a eu beaucoup...
personne n'en veut les livres. Hein. Moi, à une époque, je les donnais à une maison de retraite.
Là, ce qui est sympathique.
Oui, mais alors, la dame qui venait les collecter m'a dit, mais vous ne pourriez pas faire un tri avant, lire un peu ce qu'il y a dedans, parce que s'il y a des passages un peu olé-olé, ça met les pensionnaires dans un état pas possible. Je lui ai dit, attendez, moi je vous les donne, je ne vais pas en plus les lire. Donc, c'était le premier scandale des EHPAD à l'époque.
Bravo, Eric Mehoff. Des révélations avec vous. Chez Francis, vous écrivez dans le roman la table que tous les éditeurs s'arrachaient.
À Brive.
C'était à Brive,
oui,
alors.
C'est à Brive, oui. Mais je n'y suis jamais allé, d'ailleurs. Je n'ai jamais réussi. Mais j'aurais aimé y aller parce que c'était l'endroit où allait mon ami Tilina, qui est mort l'année dernière, ici même, à Livres en Vigne.
Alors, c'était lors de la 13e, oui, mauvais chiffre, 13e édition de Livres en Vigne, effectivement, de Denis Tilina, qui a eu une crise cardiaque. Ouais.
Cela dit, c'était quand même une belle fin pour lui, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment un caractère, c'était un bon vivant.
Alors, il n'était pas
très
politique,
bon écrivain.
Il n'était pas politiquement correct, ça c'est sûr.
Un camarade formidable, un amateur de rugby.
Un jovial. Un chiracien aussi.
Oui, mais bon, il a été un peu sarkozyste, mais au fond, il était chiracien, mais par voisinage, parce que c'était la Corrèze, c'était un ami de son père, et surtout, c'était un esprit libre et un bon styliste.
Un peu kamikaze. Pour reprendre
pas tant
le
que
titre
ça.
Du roman de Mathieu.
Non,
prenait des risques aussi quand même.
Oui.
Il gueulait, il tapait du poing sur la table, il s'insurgeait, alors qu'aujourd'hui...
Les personnalités
les gens
sont quand même très arrondies.
Mielleux,
Non, mais c'est idiot. Ou alors peut-être que les gens n'ont plus de personnalité. Je ne sais pas si c'est dû à des décennies de télévision qui ont abruti les populations. Mais Internet a complété le travail, mais alors là, à l'infini maintenant.
Je reviens à Mathieu, qui a un projet littéraire, donc un prochain roman.
Oui, il en a toujours un.
Vol plané, c'est ça. Enfin, il a retenu le titre, Vol plané. Et d'ailleurs, son éditeur, Pierre, dit Mathieu commençait à barber tout le monde avec sa nostalgie. Ouais. Et moi, je pense que beaucoup de gens, en vieillissant, et je dirais que je parle aussi en mon nom propre, beaucoup de personnes deviennent nostalgiques et j'ai l'impression que la nostalgie c'est très moderne finalement.
Ah bah peut-être, je sais pas, moi je suis nostalgique depuis l'âge de 20 ans donc je regrettais de ne pas avoir connu la nouvelle vague, le boulevard Saint-Germain à double sens, l'époque des hussards et là maintenant je suis nostalgique de profession, ça c'est signe particulier nostalgique.
Le cinéma est très présent aussi dans ce roman. Oui. Beaucoup de références cinématographiques.
Oui. Ben, je crois qu'on a tous un peu ça dans nos têtes, les films qu'on a vus. Ça a été longtemps, le cinéma a été un espéranto. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, autour des tables, les conversations tournaient autour des films qu'on avait vus et tout le monde les avait vus, tout le monde savait de quoi on parlait. Les gens pouvaient citer des répliques, des films de Sautet, imiter l'accent du midi de Lacombe-Lucien disant police allemande, parler du dernier tango, de la grande bouffe, c'était...
Quelques répliques d'Audiard aussi.
Oui, Audiard. À cette époque-là, il n'était pas à la mode, mais aujourd'hui, Audiard... Oui, mais j'aimerais qu'il y ait des films comme ça, que tout le monde aille voir aujourd'hui, et qu'ils soient le sujet de conversation. Parce que tout ça, c'était une espèce de ciment qui était un socle commun, qui faisait une culture... Qui donnait quelque chose de terriblement français. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Je ne vois pas quel serait le film qui garderait, enfin qui donnerait une séquence qui serait mythique et que tout le monde citerait. Il y a l'accident des choses de la vie, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui.
Mais là aussi, c'est comme les livres, il y a profusion de films par rapport à il y a 40 ans.
Ah oui, bah ça, il y a 40 ans, il y avait 5
et beaucoup
films.
De choses quand même. Très mauvaise, très populaire. Enfin, c'est un point, ça n'engage que moi, mais je vois
très
beaucoup de choses très populaires, très nulles.
Intellectuel dans le mauvais sens du terme, et en tout cas pas nécessaire. C'est ça qui est dramatique.
Alors, à un moment, Le masque et la plume, il en est question parce que Claire et Pierre sont dans leur assez bel appartement. Hein.
Ouais,
apparemment,
ouais.
Ils vivent bien. Le monde de l'édition les a quand même.
À Saint-Germain-des-Prés,
bien...
oui.
Bon, on va dire aussi que votre roman, c'est très très parigo-parisien.
Oui, mais c'est voulu aussi parce que je voulais que Paris soit un des personnages, là, qu'on le décrive, qu'on ait la topographie de tous les endroits, que ce soit un peu comme dans un film de Woody Allen où on voit Manhattan. Et puis, il n'y a pas de mystère. Pendant très longtemps, l'édition s'est concentrée dans un ou deux arrondissements du centre de Paris. Et c'est en train de complètement changer. D'ailleurs, moi, si Albin Michel quitte Montparnasse pour aller à Issy-les-Moulineaux ou dans je ne sais quelle banlieue, j'arrête d'écrire définitivement. Là.
Vous êtes sérieux, là ?
Ah oui, sérieux.
Et pourquoi donc ?
Mais je ne vais pas aller à Issy-les-Moulineaux pour voir mon éditeur.
Bah ça en vaut peut-être la peine de faire qu'est-ce que c'est ici les moulineaux.
Eh ben vous me direz, je vous envoie en éclaireur.
D'accord. d'ailleurs, vous parlez de la province à un moment. Pierre, est dans une, il remonte la rue du Dragon. Il y a une odeur de croissant qui s'échappe de la boulangerie et puis il arrive devant un restaurant. Vous écrivez la carte avec quelque chose de très provincial dans le bon sens du terme.
Ah, vous
voyez. Œuf en meurette, quenelle, clafoutis. Comment il faut comprendre ce provincial dans le bon sens du terme ? La gourmandise, là encore ?
Non, mais vous savez que maintenant, on n'a plus le droit de dire province. Il faut dire région. Ça fait partie des aberrations des temps modernes.
Territoire. Qu'est-ce que ça veut dire, les territoires ?
Rien. Alors que province, moi j'ai grandi dans le Lot. Je peux vous dire que pour moi, province, c'est quelque chose de délicieux et de pas du tout péjoratif. Et jusqu'à ma mort, je dirais province, provincial, et pour moi, c'est pas du tout une insulte. Le problème, c'est que la province se met à vouloir ressembler à Paris avec des rues piétonnes, les mêmes magasins partout, et ça, moi, ça me désole.
Je reviens au masque et la plume, d'ailleurs, parce que j'avais commencé. Donc, Claire et Pierre dînaient dans la cuisine en écoutant le masque et la plume. Pierre était rarement d'accord avec les intervenants.
Bah oui, parce qu'ils écoutent les émissions consacrées à la littérature, et je ne sais pas si vous avez déjà tendu l'oreille un dimanche soir.
Il y a très longtemps que je n'ai pas réécouté le masque et la plume.
Alors, ils sont terribles avec les auteurs d'aujourd'hui. Hein. Je pense qu'un éditeur n'annonce pas à son auteur que le livre a été sélectionné pour la prochaine émission, parce qu'il est très rare que ce ne soit pas un éreintement.
Mais... Jérôme Garcin a commis beaucoup de romans, par exemple. Ouais. Ça doit être très délicat de d'éreinter un roman.
Non, mais lui, il laisse parler les intervenants. C'est le meneur de jeu, hein, l'arbitre des élégances. Il le fait très bien. Hein, non, puis moi, je suis tout à fait pour les éreintements. Ça permet de maintenir en vie. Contrairement, c'est pas les éloges les éloges surtout infondés, qui vont permettre de ranimer le cadavre.
Oui, mais dans une période où il y a profusion de publication, éreinter un livre dans une émission de grande écoute. En plus, il y a les podcasts maintenant. On peut réécouter quand on est éreinté, c'est terrible. Il y a des podcasts.
Non,
si on a manqué, on peut retrouver sans problème.
C'est que tout ce que vous faites, ça reste à vie, hélas.
Eh oui.
Et ça, c'est l'horreur.
Mais alors éreinter un roman, ça peut être dramatique.
Oui, mais dans des émissions comme...
Admettons, pour un écrivain qui écoute ça, qui va être profondément blessé, et puis sa maison d'édition qui peut y voir une catastrophe commerciale à venir.
Oui, mais ça fait partie du jeu.
Oui,
personne
c'est un
ne
jeu
vous oblige
à, un risque
à écrire,
à prendre, oui.
Encore moins à publier. Et puis, vous savez, les gens sont un petit peu intimidés par les livres, mais par le cinéma, pas du tout. Quelqu'un qui sort d'une salle de cinéma, il va vous dire c'est nul, n'y allez pas. Avec les livres, les gens sont un peu plus déférents. Quand ils ont acheté un livre, ils vont jusqu'au bout. Mais un éreintement, je pense que c'est quelque chose de très sain. Ça fait circuler le sang. Et puis en général, c'est au masque à la plume, en tout cas, c'est des éreintements de fausse valeur. Et des gens qui s'en remettront.
Bien.
Mais il faut que ça existe. Sinon, ça veut dire que tout est paumé, tout
c'est
est perdu.
C'est bien noté. Éric Nehoff, Rentrée littéraire, votre dernier roman. Dernière pause musicale dans notre wagon livre sur Radion. Et nous revenons pour conclure après l'intermède musical que nous vous offrons. A tout de suite.
Les repas sont des îles faits pour deux. Des châteaux pour lever, toujours lever. Personne. D'enfants, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, personne n'est invité à la folie.
toujours mais pas longtemps à la folie. Passionnément, un peu beaucoup, pas du tout. Amour toujours qui te devra dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Qui te devra dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Éric Neuhoff, c'est très, très amusant, agréable. On sent très, tout de suite très à l'aise avec vous. Mais j'avais, je le redis, perçu un personnage jovial et chaleureux à Livre-en-Vigne il y a quelques années. Et puis, ce rentrée littéraire se veut drôle, pas politiquement correct. Moi,
ouais,
j'aime
non,
bien.
Je me suis pas
il y a une audace
question.
Chez vous,
ouais,
un culot. Et ça fait rire en plus.
Bah, oui, parce qu'il y a des choses drôles dans la vie. Tu sais, moi, j'ai toujours en tête, je ne sais plus qui a dit cette phrase, « La vie est dure, mais jamais ennuyeuse ». Et c'est tellement vrai.
Alors, j'ai un peu oublié... Ah oui, c'est page 91. Alors, ça doit être... Est-ce que c'est un cocktail littéraire ou est-ce que c'est dans le train qui amène, le train du livre, qui amène tous les écrivains de
Dites-moi,
Paris à la foire de Brive ?
Peut-être que je vais m'en souvenir.
J'avoue, mais c'est page 91. Une traductrice choqua son auditoire en abordant le sujet délicat de l'éjaculation faciale. Quand ça sèche, on a l'impression d'avoir une toile d'araignée sur le visage. Moi, ça me fait beaucoup rire. Personnellement, ça me fait beaucoup rire.
Mais ça, c'est une phrase que j'ai entendue. Ça n'est
ah
pas,
oui, d'accord.
Ça n'est pas une expérience personnelle ni une invention de ma part. Ah oui, non, mais j'ai fait beaucoup d'enquêtes hein, pour ce livre.
Et page 152, très drôle. Page 152, je retrouve le propos.
Mais ça n'est pas un livre porno. Hein.
Absolument. Non, non, mais là, c'est pas rien d'érotique ou de pornographique dans ce que je vais lire. C'est une discussion. Alors, il y a un latiniste aussi avec d'autres femmes ou une femme qui veut écrire une biographie. Je prie de m'excuser, j'ai un petit peu oublié.
Oui, je vois vaguement une soirée qui doit se passer dans
le journaliste se pencha vers l'attaché de presse. Qu'est-ce qu'il veut faire, votre fils ? Président de la République. Dictateur, quoi. Tous les enfants sont des dictateurs, dit le cinéaste qui avait des jumeaux.
Bah oui.
Et ça m'a fait penser, dans le Aurélien de Aragon, ouais. Il y a dans le roman magnifique, ouais. J'aimerais trouver le temps de relire Aurélien.
Aurélien, oui.
À un moment, Aurélien
la
arrive.
La première fois qu'il vit Bérénice, il
la trouva franchement laide.
Ouais. Eh oui. La première phrase, c'est essentiel. Une
mais
belle
justement, Mathieu disait toujours que s'il avait la première et la dernière phrase, le livre était écrit. Il suffisait de remplir les blancs.
Ouais, ça, vous fonctionnez pareil complètement, oui.
C'est l'art poétique selon
non,
Éric
Neuhoff. Non, c'est la paresse. Enfin non, c'est au contraire. Mais il faut trouver le début et la fin et ensuite joindre les deux bouts. Mais une belle première phrase, là. La première phrase des Gens de la Nuit de Michel Déon. « Cette année-là, je cessais de dormir. Ben, » on continue. Et un début de roman de Marceau, je sais plus si c'est « Crisy » ou « Le corps de mon ennemi ». « Elle est ronde, cette place. Ben, » quand on trouve ça, c'est quand même pas mal. La première phrase de « Bonjour tristesse » qui est trop longue et trop alambiquée pour que je m'en souvienne est aussi magnifique.
Et vous, ça commence par « Il vieillissait ».
Oui, au pluriel. Ouais.
Au pluriel, oui.
Bah, ça donne le ton et un peu le sujet du livre.
J'aimerais qu'on revienne avec vous sur cet auteur danois que publie Pierre aux éditions Les Épées, qui s'appelle Bjorn. Ouais.
Comme tous les Danois.
qui est un auteur de romans policiers. Et ça, c'est amusant d'ailleurs, parce que vous nous précisez que donc, ce Bjorn, dans ses livres, il vérifiait les moindres détails. Une fois, il lui était arrivé de situer une intrigue dans un pays où il n'avait jamais mis les pieds. À un moment, le héros jetait une valise remplie de billets par la fenêtre d'un train. Des lecteurs lui signalèrent que sur cette ligne... Les vitres des compartiments ne se baissaient pas. L'erreur lui avait valu de recevoir des centaines de mails. Depuis, il faisait attention à tout. Ouais. Et vous ne faites pas attention
pas
à tout.
Pas du tout, non.
Vous êtes l'anti-Bjorn, vous.
Bon, non,
mais vous n'êtes pas danois.
Moi... Je me fiche de la réalité, je m'intéresse à la vérité romanesque. Voilà. Non, vous voyez, il se passe un tas de trucs dans les trains. Ben, d'où le titre de votre émission.
Absolument, voilà. Merci pour ce sympathique clin d'œil qui va clore notre échange.
Ah bah c'est le terminus déjà.
Absolument, Éric Neuhoff, rentrée littéraire chez Albin Michel. Merci d'avoir été devant notre micro. Je salue toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Je leur souhaite un excellent, non pas week-end, car j'ai horreur de ce mot, congé de fin de semaine.
Ah, ça c'est beau, ça c'est français, bravo.
Au revoir et à samedi prochain. Au revoir, Éric.
Au revoir, merci.